Mais comme on est dans un processus d'extrapolation au-delà du texte qu'on est en train de lire, on comprend bien que ce n'est pas l'âge physiologique qui compte devant Dieu. Ce n'est pas le nombre des années sur terre. Prenons un exemple facile. Prenons une personne âgée, j'allais dire vieux, excusez-moi, âgée, qui a 60 ans et qui, à partir de l'âge de 4 ans, va à l'église tous les dimanches. Quand on lui, une heure par dimanche, il n'a raté aucun dimanche, il aura 4 mois devant Dieu, si vous faites le compte. Prenez un jeune qui n'a que 25 ans et qui n'a qu'à commencer avec Dieu qu'à l'âge de 14 ans, pas à 4 ans. Mais il passe une heure par jour avec Dieu. Il aura le même âge que celui qui a 60 ans. L'âge spirituel, maturité spirituelle devant Dieu. Et encore, je suis très optimiste parce que je parle du dimanche. Entre nous, combien reste dans notre tête après un message? Combien de quarts d'heure on est capable de suivre un message sans que notre tête diverge, sans que notre pensée aille ailleurs? Tandis que tous ceux qui ont expérimenté une demi-heure ou une heure seule avec Dieu en lisant la parole savent combien c'est bénéfique et quelle est la puissance de cette demi-heure ou d'une heure qu'on passe avec Dieu. Oui, on peut être jeune à 25 ans et être très vieux, très mature spirituellement avec Dieu. Comme on peut avoir 60 ans et n'être qu'un bébé de 4 mois devant Dieu. Oui, être jeune n'est pas un handicap si on sait utiliser le moment qu'on a pour passer avec Dieu. Le choix de la victime, une personne inexpérimentée, une personne stupide, dépourvue de sens, j'oublie maintenant le mot jeune, une personne qui n'écoute pas les enseignements, le choix de la victime, la première étape. La deuxième, le choix du moment où la tentation va arriver. Le choix du moment, c'était quand? Vous vous rappelez dans notre texte Proverbe 7? C'était le soir. Le soir. Mais que fait-il la nuit dans ces lieux? Est-ce délibérément qu'il se dirige vers cette demeure? Est-ce la curiosité? Proverbe chapitre 5 parle de la même chose. Proverbe chapitre 5 laisse sous-entendre que c'est délibérément qu'il va vers la demeure de la femme étrangère. Le chapitre 7 ne laisse pas supposer ça, laisse supposer que c'est par hasard qu'il va vers cette demeure. Mais posons-nous la question, que fait-il le soir en dehors de chez lui? Oui, si je vous pose la question, vous allez rigoler. Vous avez tous l'habitude de sortir le soir au cinéma, au McDo, ainsi de suite. Il n'y a pas de problème. Mais si vous revenez 3000 ans en arrière, le soir, les gens restaient dans la maison. Il n'y avait pas McDo, il n'y avait pas les cinémas dehors. Normalement, on reste avec sa famille le soir. Si on n'est pas chez lui le soir, ça ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Revenez à 3000 ans en arrière. Il n'y avait pas les routes, les autoroutes, les voitures, les éclairages et ainsi de suite. Si on sort le soir, c'est qu'on a quelque chose à cacher. Quelque chose, on ne veut pas que les gens voient. On va en profiter de la nuit pour faire quelque chose. Que fait-il le soir en dehors de chez lui? l'occasion. L'occasion de donner au diable de rentrer sans frapper chez soi. Tout ce qui laisse ou peut laisser une porte au diable est une pierre d'achoppement. Que faisait-il en train de marcher vers la demeure de cette femme étrangère? Et je peux vous dire que dans un petit village d'Israël, quand il y avait une étrangère qui y habitait, c'était bien connu, on savait qu'il y avait quelqu'un d'étranger là-bas. Poussons encore notre avant. Et là, je me pose la question, pour nous, que faisons-nous? Où sommes-nous le dimanche matin? Où sommes-nous les soirs? Où sommes-nous dans nos moments libres? Avec quel ami promenons-nous? Quel livre lisons-nous? Quel film regardons-nous? Est-ce que dans nos moments libres, on laisse une porte au diable pour entrer? Ou bien on se protège? Belle question. Bonne question. Réfléchissons à toutes ces questions. Et allons un petit peu plus loin et poussons notre raisonnement un peu plus loin. Et regardons comment encore on peut le choix du moment. Prenons l'exemple de Caïn. Genèse chapitre 4, versets 6 à 7. La jalousie, l'irritation, la colère ne sont pas-elles aussi des moments où le diable peut rentrer? Le diable peut rentrer non uniquement par des moments, j'allais dire, physiques, où je me trouve, mais aussi les moments où mon état interne va lui laisser la place de rentrer. La jalousie, l'irritation, la colère. Dieu a dit à Caïn, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Ce que Caïn n'a pas pu faire. Il n'a pas dominé sur le péché. Son état du moment, son irritation, sa colère, sa jalousie envers son frère était un bon moment pour que Satan rentre sans frapper et lui fait commettre le meurtre. Le choix du moment. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait en Romains, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Le choix du moment. Le choix du moment. Il n'est pas uniquement physique que le malin utilise ou en est, mais il est aussi un état spirituel, moral, psychologique dans lequel on peut se trouver. Le choix de la victime, premièrement. Deuxièmement, le choix du moment. Continuons maintenant le raisonnement, le cheminement. La troisième étape, c'est convaincre la victime. Et là, ça va être la pire des ruses que le malin va utiliser. C'est peut-être même le cœur même de toutes ces ruses. Ça va être convaincre la victime, la faire raisonner, la faire séduire par un raisonnement soi-disant logique. Il va faire raisonner la victime par un raisonnement soi-disant logique pour qu'elle accepte. Et regardez de quelle manière il va faire. Premièrement, par des paroles doucereuses. Vous vous rappelez ce qu'on vient de lire? L'étrangère emploie des paroles doucereuses en proverbe. Proverbe chapitre 7, verset 21, elle le séduisit à force de paroles, elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. La parole doucereuse. Oh, cette femme, son sourire, Ses lèvres, ses paroles douces, la manière dont elle me parle. Elle s'intéresse à moi, elle me parle si gentiment. Comment pourrais-je ne pas tomber? Cet homme qui s'intéresse à moi alors qu'il n'y a personne qui s'est encore intéressé à moi, qui me parle, qui me donne des paroles gentilles, des paroles douces. Comment je ne vais pas l'écouter? Comment je ne vais pas aller avec lui, laisser tout tomber? Les paroles doucereuses. Mais souvent ces paroles doucereuses, ça touche notre orgueil. Notre orgueil de se sentir attiré par quelqu'un, quelqu'un qui nous aime, quelqu'un où on est attiré par quelqu'un. Des paroles doucereuses. On commence par convaincre par des paroles doucereuses. Et puis après, il ne s'arrête pas là. Au cas où, ces paroles, ils vont peut-être, avec un excès de bon sens, la victime va se retrouver, va dire non, faire attention. Si on a un éclair de bon sens qui va arriver, le malin va l'achever par un raisonnement, par de l'argumentation. Il va lui apprendre à... Il va argumenter avec lui, raisonner avec la victime. Il va utiliser deux raisonnements. Le premier, l'impunité de l'acte. Qu'a-t-il dit? Qu'a-t-elle dit, la femme, à ce jeune fils? Mon mari n'est pas là. De toute façon, t'inquiète pas, il n'y a personne pour voir. C'est la nuit, personne ne voit rien. Mon mari n'est pas là. Une nuit, puis c'est fini, personne ne verra rien. Impunité de l'acte. C'est ce qu'il a fait Satan avec Adam et Ève. Vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Abel, lorsqu'il a tué son frère, ils étaient tous les deux seuls dans le champ. Personne ne voit. Impunité de l'acte. Personne ne voit rien. T'inquiète pas. Personne ne saura rien. Voilà le premier argument. Le deuxième argument, la légitimité de l'acte. C'est encore plus fort, la légitimité de l'acte. Elle parle d'un vœu qu'elle a effectué. Elle parle d'un sacrifice qu'elle a fait. Si vous regardez, si vous revenez dans les Lévitiques, les Juifs, quand ils faisaient un vœu et qu'ils offraient un sacrifice après cela, une partie de la viande allait à l'autel au sacrificateur et le reste revenait à la famille et ils faisaient un peu la fête et ils mangeaient ensemble avec le reste de la viande. Donc c'était un peu légitime faire la fête. Elle, c'est une femme étrangère, païenne. On sait bien que la prostitution sacrée, chez les païens, ça existait. C'était pas considéré comme une déviation. Elle est étrangère, elle faisait pas partie du peuple de Dieu. Donc là, il y a un mélange entre ce qui est permis pour elle, ce qu'elle peut faire, et ce que le peuple juif avait l'habitude de faire la fête une fois qu'un vœu est accompli. En fait, elle est en train de raisonner avec lui, elle lui dit, mais... c'est normal ce que je fais. J'ai fait un vœu. Mon Dieu m'a répondu. Et maintenant, je vais faire ce que je suis en train de faire. Non seulement impunité de l'acte, mais aussi légitimité de l'acte que je suis en train de faire. Plusieurs exemples bibliques nous parlent de ce type de raisonnement. Peut-être pas aussi fort que celui-là, moins fort. Je vais vous en prendre deux. Le premier raisonnement comme ça, légitimité, c'est Jézabel quand elle parlait à Achab au sujet de la vigne de Naboth. Achab, le roi, il avait son palais et à côté de lui, il y avait un voisin qui s'appelait Naboth qui avait une vigne. Et lui, il voulait sa vigne, parce qu'il juxtaposait son palais. Naboth ne voulait pas lui donner. Et Jézabel réfléchissait et raisonnait. Achab lui dit, « Est-ce bien toi qui exerces maintenant la souveraineté sur Israël ?» En d'autres termes, elle est en train de lui dire, « Mais tu es roi. Si toi, dans ton royaume, on ne t'écoute pas, comment tes ennemis vont t'écouter, vont te respecter ? Si toi, dans ton royaume, tu n'es pas écouté, tu n'es pas respecté. » Raisonnement logique. Raisonnement logique. La tentation d'Adam et d'Ève, l'argument que Satan leur donnait parce qu'il ne fallait pas qu'ils mangent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais l'argumentation implacable qu'il leur a donnée, mais c'est parce que Dieu ne veut pas que vous soyez des intelligents et que si vous en prenez, vous allez être comme lui, des dieux. Raisonnement implacable pour la victime. Pour qu'elle accepte, pour qu'elle tombe. Mais entre nous, combien de fois on a entendu des raisonnements pareils? Combien de fois on n'a pas entendu « Oh, mais on est au 21e siècle, c'est fini comme avant, on peut vivre ensemble sans problème maintenant, l'essentiel c'est l'amour, sans qu'on soit marié ». L'essentiel, c'est le mot que je lui donne, ainsi de suite, ainsi de suite. Je n'ai pas besoin de vous faire tout un discours. Vous connaissez aussi bien que moi les arguments qu'on nous donne aujourd'hui. Argumentation. Convaincre la victime par des paroles doucereuses. Argumentation. Argumentation par un raisonnement implacable qui est logique. Oh, c'était pas grave si tu t'es énervé. C'est pas grave, tu étais fatigué. Et parfois, on dit, oh, mais j'étais fatigué, j'ai laissé la colère, la vengeance prendre le dessus sur moi. J'étais fatigué. C'est pas grave. Il est entré. Il a convaincu la victime que c'est à cause de notre fatigue, de notre état, qu'on a commis cet acte ou cet acte ou cette chose. Raisonnement, argumentation, légitimité, t'en peux plus, ça fait 10 000 fois qu'il t'embête ce type. T'en peux plus, c'est pas grave. Argumentation, légitimité, impunité de l'acte. Choix de la victime. Choix du moment, convaincre la victime. Convaincre la victime. Se laisser prendre par le raisonnement précédent. Jacques disait, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Parce que si on écoute le raisonnement, pourquoi ? Parce que ça nous arrange. Pourquoi Achab a écouté sa femme Jézabel ? Parce que ça l'arrangeait d'avoir le champ de Naboth. Pourquoi le jeune a écouté le raisonnement de la femme étrangère alors qu'il sait qu'elle est étrangère et que ce n'est pas la vraie loi? Parce que ça l'arrange. Parce que ça l'arrange. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et pour la fin, il n'y a plus rien à dire. Je dis même, il n'y a plus rien à faire. On est tombé dans les sables mouvants. On est chuté. Chute de la victime. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et la suite de Jacques, puis la convoitise lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. 4 étapes implacables pour tomber, pour arriver à la mort, pour chuter. La victime. Le choix du moment. Raisonner la victime. Et se laisser après tomber dans les sables mouvants, dans la chute. Le but, bien sûr, c'est de ne pas rester sur ce raisonnement, mais de regarder et de réfléchir un peu entre nous comment s'y prémunir. C'est beau de savoir qu'il y a 4 étapes. Et alors, ça me fait quoi si je sais ces 4 étapes? Comment s'y prémunir? Ben, j'aurais aimé vous dire, un homme averti en vaut 2. Hein, vous êtes une femme aussi. Hein? Averti en vaut 2. Quand on sait comment le malin fait les choses, ben, on doit quand même avoir une certaine méfiance. Se douter quand les événements arrivent. Écouter la sagesse, se laisser instruire par elle. C'est ce qu'il dit dans les proverbes à la fin. Hein. Il dit, « Maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. » Ainsi de suite, ainsi de suite. Il leur a donné l'exemple. Et maintenant, écoutez-moi. Faites ceci, regardez ce qui arrive. Faites ceci. La deuxième, restez sur ses gardes. Restez sur ses gardes. L'apôtre Pierre dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Veillez, veillez, veillez. Votre adversaire, il rôde, cherchant qui il dévorera. Oui, c'est bon, veillez, Simon. Comment veiller? Comment veiller? Comment ne pas oublier de veiller? Je vais ouvrir une parenthèse. Dans son livre « L'heure de s'enivrer », l'astrophysicien Hubert Reeves, où il parle dans son livre « S'il y a un sens à l'univers », dans le premier chapitre de son livre, il cite Baudelaire. Et il dit la phrase suivante. Enivrez-vous, enivrez-vous de vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Enivrez-vous de vin, de poésie ou de vertu, à votre guise, mais enivrez-vous. En d'autres termes, il dit à ses lecteurs, bien sûr, il parle d'astronomie, hein, il dit à ses lecteurs, soyez passionnés de ce que vous aimez, de votre quête. Si vous aimez quelque chose, faites-le à fond. Faites-le à fond. Enivrez-vous. Enivrez-vous de ce que vous aimez. Soyez-en passionnés. La femme adultère, peut-être elle avait un éclair de génie. Elle ne connaissait ni Baudelaire, ni Hubert Reeves. Mais elle a dit la même chose. Qu'est-ce qu'elle lui a dit, Proverbe chapitre 7? Elle lui a dit, viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Juste pour une soirée. Juste pour une nuit, elle lui demande de s'enivrer d'amour et de volupté. Mais la sagesse dans les proverbes, je ne sais pas si elle aussi a connu Hubert Reeves ou Baudelaire. Ils ont dit la même chose, mais d'une autre manière. Proverbe chapitre 5. Bois les eaux de ta citerne. Les eaux qui sortent de ton puits, que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Ils disent un peu la même chose, non? Par contre, lundi, enivré d'une nuit, un truc passager, tandis que le proverbe dit en tout temps enivré de ses charmes, en tout temps, pas un plaisir passager d'une journée, d'une nuit, mais en tout temps, sans cesse, Enivre-toi sans cesse. Alors, il y a une chose que j'aurais aimé quand même dire. On compare la femme à l'eau de la citerne, aux eaux qui sortent. Mais c'est une très belle comparaison si on revient quelques milliers d'années en arrière. Parce que les eaux, l'eau, quelqu'un qui avait des puits d'eau, c'était extrêmement riche, vous savez pourquoi? Parce qu'il pouvait avoir du bétail autant qu'il veut, ça se produit tout seul les bétails, il avait de l'eau pour donner à boire, pour arroser, pour qu'il y ait de l'herbe. Donc c'était quelque chose de précieux qu'il a. Et là, la Bible compare l'épouse à quelque chose du plus précieux qu'une personne a. Mais pareil pour une épouse, quelque chose le plus précieux, c'est son mari. Et la Bible, pour une fois, nous dit « enivrez-vous ». Pour une fois, elle nous laisse le choix, la possibilité d'être ivre, d'être passionné. Et pas pour une nuit. Pas pour une nuit, pour une journée, pas pour un plaisir passager, mais pour la vie. Pourquoi chercher ailleurs ce qu'on peut avoir chez nous? Mais bien sûr, ce que je veux vous dire, c'est au-delà de relations entre époux et entre épouses. Ce que je vais vous dire, je vais vous citer un psaume. Psaume 119, verset 20, « Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. » Si on est, en d'autres termes, le psalmiste est en train de nous dire « Enivrez-vous de la parole de Dieu. Soyez passionnés par la parole de Dieu. Enivrez-vous d'elle. Soyez passionnés d'elle. » Être ivre d'amour pour son épouse, pour son époux, mais être aussi ivre d'amour pour Dieu. S'enivrer de lui tous les jours. Tous les jours s'enivrer de lui. Être tellement passionné que je ne peux pas passer une journée sans passer un moment avec Dieu. Être épris de son amour, être passionné, lire sa Bible, étudier, être instruit par lui. Comme si je dois m'enivrer de l'amour de ma femme, il faut que je la voie tous les jours et que ce ne soit pas passager. Et pour finir, Proverbe chapitre 4, et c'est là l'antidote. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Tu marcheras avec assurance sur ton chemin. Et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. On n'a pas besoin de somnifères pour dormir. Quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance. Il préservera ton pied de toute embûche. Il rôde. Le diable. Il est là, il est en train de rôder, cherchant qui il va dévorer. Mais le proverbe nous dit, si on est amoureux de la parole de Dieu, si on est épris, passionné, si on s'enivre de cette parole de Dieu, alors là, il n'y aura aucune crainte. L'Éternel sera là pour nous rappeler, pour nous guider, pour nous diriger. L'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de la chute. Voilà la meilleure manière de s'échapper aux ruses du diable. Être amoureux de notre Dieu, épris d'amour, s'enivrer de sa parole, être passionné de sa parole. Pour finir ce moment qu'on a passé ensemble, pour une fois, je ne vais pas prier. Mais j'aurais aimé qu'on chante ensemble un cantique qu'on va en attendant qu'on le projette. C'est, il reflète un petit peu ce qu'on vient de dire. Et c'est vraiment comme une prière qui tombe à pic, à point avec ce qu'on est en train de dire. Il dit, « Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle, brûle en mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi. Sois mon seul maître, ô divin roi. » Cette passion, cette passionnée par Dieu, que tout mon être vibre pour toi. Du mal perfide, ô garde-moi. De la ruse du diable. Du mal perfide, ô garde-moi. Viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Restant assis et chantant-le pour une fois, ce cantique comme une prière à Dieu. J'aurais aimé que quelqu'un entende, moi je ne suis pas capable.